Nous allons nous tourner ce matin, nous continuons dans le livre du prophète Ésaïe. Nous arrivons au chapitre 13. Nous avons quelques caractéristiques qui nous distinguent d'autres mouvements ou d'autres églises. Et si ces caractéristiques n'étaient pas là, alors pourquoi ne pas se réunir avec d'autres dénominations ? Et ce n'est pas du tout un sentiment de supériorité que ce que nous faisons est mieux que ce qui se fait ailleurs dans telle ou telle église. Non. Nous sommes un élément de la diversité qui existe dans le corps de Christ. Mais une des caractéristiques, c'est que nous étudions la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, verset par verset, et cela pour pouvoir vraiment recevoir tout le conseil de Christ, tout le conseil de Dieu. Et en France, il y a très peu d'églises qui font ça. Les passages que nous allons voir aujourd'hui, que vous allez lire, peut-être découvrir, sachez que ce n'est pas monnaie courante dans les églises. Il y a des choses que vous allez entendre, des choses que vous allez lire, qui peuvent vous sembler un peu rébarbatives, un peu pénibles. Ça, c'est l'Ancien Testament. Bon, les Assyriens, Babylone, oh là là, qu'est-ce qu'on en a à faire de tout ça ? Nous croyons, nous sommes convaincus que toute la parole de Dieu a été inspirée par l'Esprit-Saint. Et si toute la parole a été inspirée par l'Esprit-Saint, ça veut dire que Dieu veut que nous connaissions toute la parole. Pas seulement nos passages préférés. Pas seulement les passages qui parlent du petit Jésus ou du Jésus mort sur la croix parce qu'il nous aime. Ce sont des vérités. Mais quand on ne présente pas toute l'image, tout le texte, toute la Bible, alors on déforme la vérité. Et aujourd'hui, nous allons entamer une étude sur les prophéties sur les nations étrangères à l'alliance initiale que Dieu a établie, a conclue avec son peuple. Alors nous avons donc des moments où nous étudions verset après verset des livres bibliques. Nous avons aussi des moments où nous faisons des études thématiques. Il n'y a pas très longtemps, nous avons fait une étude sur le combat spirituel, nous avons fait des études sur le Saint-Esprit, mais le danger avec ces études, c'est de prendre des passages qui nous conviennent, qui conviennent à notre doctrine, sans être confrontés à la réalité de la diversité, des fois difficilement réconciliable en système théologique que l'on trouve dans la parole. S'il y a des choses qui semblent se contredire, c'est que Dieu l'a permis. Ce n'est pas à nous d'essayer de corriger par une théologie plus systématique, plus englobante, ce qui nous paraît être contradictoire, comme le fait que Dieu est souverain, mais que l'homme est responsable. Certains aiment bien dire, si Dieu est responsable, on n'a plus rien à faire. D'autres disent, si Dieu est souverain, on n'a plus rien à faire. Et si c'est l'homme qui est responsable, alors l'homme doit tout faire. Non, ces deux vérités sont enseignées, et elles sont toutes deux la vérité. Et c'est très important d'avoir cette approche, nous le croyons. Et donc, avec cette introduction, nous allons commencer à parler de cette prophétie, de ces prophéties du prophète Ésaïe concernant les nations, c'est-à-dire les peuples non-juifs, ceux qui ne font pas partie de l'alliance initiale. Bien qu'en fait, dans l'Alliance initiale, il est dit que Dieu a choisi un peuple pour bénir toutes les nations. Dieu, son désir, ça a toujours été de bénir tous les hommes. Et c'est ce que résume si bien le verset Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, y compris les Corses, y compris les Niçois, y compris les Bretons, les Auvergnats, les Arabes, les Noirs, les Africains, les habitants de la Nouvelle-Guinée, tous les hommes sans exception. Il nous a créés à son image, on va y revenir. On a déjà entamé donc cette étude du livre d'Ésaïe, et on a dit qu'en fait, les prophéties sont une façon dont Dieu, par laquelle Dieu authentifie son message. Quand vous recevez une lettre, vous voyez de qui elle vient, qui l'a signée. Est-ce que c'est une pub ? Quel cas vous n'allez pas la garder longtemps ? Par contre, si c'est les impôts, vous feriez bien de ne pas la déchirer tout de suite. Parce qu'il y a des choses à faire. Et de la même façon, Dieu, il sait que nous allons, au cours de l'histoire, nous allons entendre des tas de messages. Des tas de messages contradictoires, comme un brouhaha. Un brouhaha. Pas facile à dire, brouhaha. Et il veut que nous sachions reconnaître sa voix. Alors, on peut, en connaissant Dieu, en apprenant à le connaître, en ayant une relation intime avec lui, en lisant sa parole, en lui parlant dans la prière, en écoutant sa voix dans la prière, la voix du Saint-Esprit, on se familiarise de plus en plus avec la voix de Dieu et on sait le reconnaître. Il y a des fois, on dit non, ça ne vient pas de lui. Mais une autre façon dont Dieu authentifie son message, ce sont les prophéties. Parce que les prophéties, ça déclare à l'avance ce qui va se passer dans le futur. Et il n'y a que Dieu qui puisse faire cela. Ce n'est pas les astrologues, ce n'est pas ceux qui font des prévisions dans les numéros des magazines du début de l'année pour vous dire qu'il va y avoir quelqu'un qui va mourir, qu'il va y avoir une révolution quelque part dans l'ancienne Union soviétique. Moi, je peux vous prédire qu'il y aura encore des problèmes dans l'ex-Union soviétique l'an prochain. Ça ne demande pas d'être prophète, ça. C'est la réalité du moment, c'est la réalité historique. Mais Dieu est le seul à annoncer des choses à l'avance. Pourquoi ? Parce que Dieu est en dehors du temps. La semaine dernière, après le culte, un petit groupe est allé voir passer le Tour de France. Et il y a des gens, des coureurs, à un moment, il y a des coureurs qui étaient déjà passés. C'était le passé. Même s'ils étaient en tête, c'était le passé. Pour moi qui suis au bord de la prom en train de regarder le Tour de France passer. Ceux qui sont passés, c'est fini. On ne va pas les revoir. Celui qui est devant moi, c'est le présent. Est-ce que c'est Lance Armstrong ? Ben, ils sont tous à voir le même maillot, ils ont tous le même casque, ils ont tous les mêmes lunettes de soleil, ils sont tous sveltes et musclés, je ne sais pas lequel c'est. Je n'ai pas son numéro en tête. Mais devant moi, c'est le présent. Et puis, il y en a qui ne sont pas encore passés. Ça, c'est, pour moi, qui suis sur le bord de la route, c'est le futur. Dans 2 minutes, si je peux écouter la radio, si quelqu'un m'appelle, ah oui, il y a un tel qui est tombé, qui arrive maintenant, qui va arriver bientôt. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait quelque chose qui passait au-dessus de nos têtes. Il y avait un hélicoptère. Un hélicoptère blanc, je crois, de TF1, non, d'antenne 2, antenne 3, antenne 4, antenne 5. Ils s'y mettent à plusieurs parce que ça coûte cher. Et de cet hélicoptère, il y avait des retransmissions en direct où on voyait l'avant de la course, le milieu de la course et la fin de la course. Cet hélicoptère est dans une troisième dimension. Nous qui sommes sur la prom, on est en 2 dimensions, même si on a un petit peu de relief. Mais par rapport à la course et au temps, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Par contre, l'hélicoptère d'Antenne 2, il filme toute la course, le passé, le présent, le futur. Pour Dieu, c'est la même chose. Dieu n'est pas inscrit dans le temps. Le temps, c'est une propriété physique. Ça, il a fallu attendre les découvertes de la science moderne. Et la science n'a jamais contredit la Bible. Bien au contraire, la science confirme la sagesse de la Bible. Ne soyez jamais intimidés par les pseudo-scientifiques qui vous disent que la science a montré que la Bible n'était pas vraie. C'est faux. C'est archi faux. On l'a vu avec André Hegen qui est venu nous parler au début de l'année. Et il y a plein de scientifiques de renom, de haute volée, qui sont convaincus de la véracité de la Bible. Pourquoi ? Parce que la Bible est vraiment la parole de Dieu. La Bible est issue de la bouche de Dieu. Et nous avons besoin d'elle pour être nourris. Et donc ces prophéties, c'est une façon dont Dieu dit, voyez, je peux prédire que Israël va être discipliné par les Assyriens, mais que les Assyriens vont être renversés par les Babyloniens, et que ces mêmes Babyloniens, eux, vont être renversés par les Perses et les Mèdes. Et c'est ce qui se passe dans ce qu'on va lire aujourd'hui. On va voir une prophétie qui était annoncée des siècles avant que ces événements ne se produisent. Alors certains critiques, entre guillemets, des critiques modernes, disent que c'est pour ça qu'en fait il n'y a pas un seul Ésaïe, il y en a plusieurs. Ils aimeraient bien pouvoir expliquer les prophéties en disant... En fait, ce ne sont pas des prophéties du tout, ça a été écrit après coup. Mais ce n'est pas le cas. Et on va voir qu'en fait, il y a des prophéties qui sont écrites, qui ont encore un accomplissement futur. Et ce qui est merveilleux, c'est que lorsqu'on voit comment les prophéties se sont accomplies dans le passé, on peut être confiant que ces prophéties qui ne se sont pas encore accomplies vont être accomplies. Et c'est ça qui fait que nous sommes pleins de foi, de confiance. Nous n'avons pas peur, même si le monde entre dans des cataclysmes, même si l'économie est chamboulée, même s'il y a des destructions cataclysmiques, nous qui avons mis notre confiance en Dieu, nous sommes devenus ses enfants et nous n'avons aucune raison de nous inquiéter. Quelle paix dans nos cœurs. Malgré les tumultes qui entourent le monde. Chapitre 13, verset 1. Il va être prononcé ce qu'on appelle des menaces sur plusieurs nations païennes. Le mot menace, c'est en fait... Le mot, c'est pas une bonne publicité pour une compagnie de pneus, c'est le mot Massa, M-A-2-S-A. Massa, c'est un oracle, c'est une prophétie, mais c'est quelque chose qui est lourd, qu'il faut lever. Pourquoi ? Parce que ce sont des mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles du jugement de Dieu sur ces nations qu'il utilise pour juger son propre peuple. Nous avons étudié, nous avons déjà vu comment Dieu peut utiliser des gens païens, des gens qui ne le reconnaissent pas, qui ne le croient pas en lui, pour juger, pour infliger des corrections à son peuple, à ceux qu'il aime. Et une autre caractéristique des prophéties, nous l'avons dit, c'est qu'il y a souvent un accomplissement immédiat, un accomplissement historique au moment où la prophétie est écrite, ou dans les quelques années où elle est écrite, et un accomplissement ultime, un accomplissement à la fin des temps. Et on va remarquer sur certains de ces passages qu'à l'époque il y avait un accomplissement historique, mais nous voyons en recoupant encore une fois avec toute la Bible qu'il y a un accomplissement futur à la fin des temps. Menace sur Babylone dont Ésaïe, fils d'Amos, eut la vision. Sur une montagne nue, dressez une bannière, élevez la voix vers eux, agitez la main et qu'ils franchissent les portes des nobles. J'ai donné des ordres à ceux qui me sont consacrés, j'ai aussi appelé mes héros pour assouvir ma colère. Ceux qui se réjouissent de mon triomphe, bruit de foule sur les montagnes à l'image d'un peuple nombreux, bruit du tumulte des royaumes des nations rassemblées, l'Éternel des armées passe en revue l'armée sur pied de guerre, ils viennent d'un pays lointain du bout des cieux. L'Éternel et les instruments de sa fureur vont causer des douleurs à tout le pays. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et le cœur manque à tout homme. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent, désolé mesdames, c'est pas encourageant, comme une femme qui accouche. Ça, c'était avant les anesthésies. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Du jugement de Dieu contre Babylone. Encore une fois, ça c'est annoncé alors que Babylone fait partie du royaume assyrien et que rien ne présage, ne laisse présager qu'ils vont avoir besoin d'être punis. Mais Dieu, par son prophète, annonce comment Babylone va souffrir. Cette prophétie, il y a peu de chances qu'elle ait été publiée dans Babylone Matin. Ce n'était pas pour le bénéfice des Babyloniens tellement, c'était plutôt pour encourager le peuple de Dieu, et par là je veux dire pour l'instant Israël, Jacob, Judas et Israël. C'était pour, en fait on sait qu'il était un prophète pour le royaume du sud, capitale Jérusalem, Judas, mais il veut encourager son peuple en montrant que ses ennemis vont être punis. Babylone, c'est la ville qui est la plus souvent citée dans la Bible, 227 fois je crois, ou 277 fois, pardon, près de 300 fois après. Quelle est la première ville citée dans la Bible à votre avis? Nice? Jérusalem. Jérusalem est citée près de 800 fois. Et en fait, la Bible, c'est un peu le récit du combat entre ces deux villes. Jérusalem, la ville sainte, Babylone, la ville qui symbolise le système de valeurs du monde. On l'a vu pour certains qui étaient là quand on a étudié ça, dans l'Apocalypse, Babylone symbolise le système de valeurs du monde dans le domaine dans le domaine spirituel ou religieux et aussi dans le domaine économique. Et Jérusalem, elle, c'est la ville du roi, c'est la ville sainte, c'est la ville qui a été choisie, c'est là que Jésus va revenir. Et donc il y a cette symbolique ou cette signification qu'il faut toujours garder à l'esprit. Lorsqu'on parle de Babylone, c'est pas bon. Il y a quelques années, il y avait sur une route, il y avait les jardins de Babylone, un lotissement en construction qui restait en ruine pendant des années. Chaque fois que je me promenais par là, je disais, tiens, Babylone n'a pas été encore reconstruite. On va voir cette préoccupation qui ressort dans ces passages. Il dit que les gens vont être vraiment impressionnés par ce qui va se passer pour Babylone. Verset 6, il parle aussi du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est une expression, le jour du Seigneur, c'est une expression qui revient plusieurs fois, qui parle pas non d'un seul jour, mais d'une période de jugement à la fin des temps. Et il annonce, et là il y a une espèce de combinaison entre ce qui va se passer historiquement dans la vie des gens qui vont être en proie à l'exil, à Babylone, etc. Et aussi cet arrière-plan lointain, mais toujours présent, de la réalisation ultime de ces prophéties. Le jour du Seigneur, ça parle aussi de la période de la grande tribulation. À la fin des temps, où après, pour ceux qui embrassent la vue d'un enlèvement de l'Église avant la grande tribulation, rien ne se tient entre notre enlèvement, l'Église, ceux qui sont à Jésus, ceux qui ont mis leur foi en lui vont être enlevés, et ça pourrait intervenir à tout moment. Et lorsque l'Église aura été enlevée, avec le Seigneur, pour être avec lui, c'est d'en haut que l'Église et ceux qui appartiennent, ceux qui ont été sauvés en Jésus, verront les événements se dérouler sur la terre. Il y aura une période de grande tribulation. Il y aura un impie, l'homme qui va se faire passer pour Dieu, l'antéchrist qui va être soutenu par Satan. Et là, on y reviendra au chapitre 14, peut-être. On va voir jusqu'où on va ce matin. Et cet antéchrist va apparaître sur la terre comme un homme politique d'un grand charisme et d'une grande sagesse. Il va apparemment sembler régler tous les problèmes politiques de la terre. Alors on a souvent des personnages politiques, souvent au début de leur carrière politique, avant qu'ils s'empêtrent dans les problèmes, et on se dit, est-ce que l'antéchrist c'est Sarkozy? Est-ce que l'antéchrist c'est Obama? Soyez très prudents dans vos prédictions, mais il est clairement indiqué par d'autres prophéties. On a étudié au cours de l'année, le mercredi, les prophéties de Daniel notamment. Il y a cette 70e semaine où les choses vont se remettre en route. Une semaine, c'est une période de 7 années où, pendant les 3 premières années et demie, cet homme va sembler résoudre tous les problèmes de la terre jusqu'au milieu de cette période de 7 ans où, inspiré par Satan, il va vouloir se faire adorer dans le temple reconstruit à Jérusalem. Et là, ça va être le début de la période de 3 ans et demi qu'on appelle plus précisément la Grande Tribulation. Certains pensent que l'Église va passer par cette période. Pour moi, c'est difficilement soutenable lorsqu'on regarde l'ensemble de la Bible. Il est dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Les tribulations, l'Église en subit, des épreuves. Tout le monde, vous et moi, nous en subissons. Les chrétiens persécutés en subissent, qui ont un goût particulièrement amer et particulièrement réel. Mais les tribulations, pour l'instant, ce sont des épreuves qui viennent de Satan, du monde, de notre péché, de notre chair. La grande tribulation, ça va être un jugement de Dieu sur la terre. Ça, c'est une grande différence. Et donc, il explique que les royaumes vont se succéder. Et en ça, il rejoint la fameuse prophétie de Daniel. Si vous voulez regarder très rapidement, page 876 dans la Bible à la colombe, Daniel 2. C'est une vision que le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, a eue. Et il veut l'interprétation de cette vision, de ce rêve. Mais lui aussi, il cherche à authentifier la traduction, à authentifier le message qu'on va lui donner, en demandant à ses sages de deviner quel était son rêve. Donc non seulement il faut interpréter le rêve, mais pour pas qu'on interprète et qu'on dise n'importe quoi, il a la très bonne idée de demander à ce qu'on lui dise quel était le rêve. Et là, personne n'y arrive, sauf Daniel, parce qu'il se réclame d'un Dieu qui est dans les cieux, qui révèle les mystères et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui va arriver dans la suite des temps. Et au verset 31, Daniel explique au roi la vision. « Au roi, tu as une vision, celle d'une grande statue. » Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient de bronze, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les réduisit en poussière. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Plus loin, on va pas tout lire, mais Daniel explique la signification de cette statue, de ce rêve. Et cette statue représente les grands empires de l'histoire. Le premier, cette tête d'or, c'est le royaume de Nebuchadnezzar. C'est le royaume, le premier royaume. Et ensuite, il parle d'une poitrine et de bras en argent. Ça, c'est les Perses et les Mèdes. Le ventre et les cuisses de bronze, ça c'est l'empire d'Alexandre, les Grecs. Les jambes de fer, ça représente l'empire romain. Et puis à la fin, les pieds, ça représente, il y a à la fois de l'argile et du fer. Certains pensent que ça représente une forme restaurée de l'empire romain. C'est peut-être pour ça que vous avez entendu, des fois on pense que l'antéchrist va venir de l'Europe. Donc c'est pas Obama, peut-être, on n'en sait rien. Je ne pense pas que ce soit lui. Peut-être que ce sera dans quelques années, ça peut être encore dans... Nul ne connaît l'heure ni le jour, mais nous pouvons reconnaître les signes des temps. Et voilà, il explique donc le passage des royaumes, et c'est ce qui va se passer. On y fera allusion dans Deux Rois, comment en une nuit, le royaume de Babylone a été renversé par les Mèdes, les Perses, on parle des guerres médo-persiques, contre Babylone d'abord. Il nous parle d'une désolation, mais il suit avec le jour de l'Éternel qui arrive, verset 9, jour cruel, jour de courroux et d'ardente colère qui réduira la terre en désolation, qui en exterminera les pécheurs, car les étoiles des cieux et leurs constellations ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa lumière. Ça vous rappelle peut-être un passage, ça. En fait, c'est des passages que Jésus a repris, Jésus qui connaissait très bien les Écritures, et dans Matthieu 24, c'est le discours du Mont des Oliviers. Lorsque ses disciples lui demandaient il voulait qu'il leur raconte la fin des temps, la fin des temps. Et verset 29 du chapitre 24 dans Matthieu, il dit « Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel » et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, toutes les nations. Elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. On voit que Jésus reprend cette prophétie et l'indique clairement comme une prophétie de la fin des temps. Encore une fois, le meilleur commentaire sur la Bible, c'est pas Pierre, c'est pas votre commentateur favori, c'est la Bible elle-même. Et ne laissez jamais quelqu'un vous annoncer des choses sans aller vérifier par vous-même. Vous vous souvenez de Paul qui félicitait les Béréens, pas parce qu'ils portaient des bérets, mais parce qu'ils allaient voir dans la Bible elle-même si ce que Paul leur disait était la vérité. Ne prenez jamais pour argent comptant les interprétations, les explications qu'on vous donne de la Bible. Elle vous aide à voir des choses, elle vous aide à faire peut-être le lien entre certains passages que vous ne connaissez pas encore, mais la Bible a été révélée pour que vous puissiez vous-même, vous en faire une interprétation personnelle. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Vous ne croyez pas telle chose parce qu'un beau matin, vous êtes venu dans telle église. Non, c'est parce que, et c'est souvent le cas, les gens croient des choses simplement parce que ils ont été invités ou ils ont grandi dans telle église, dans telle dénomination. Ils n'ont jamais remis en cause les tenants, les aboutissants de la confession de foi, et ils se disent, ils sont sympas là, c'est bien d'être sympa, mais c'est très important d'avoir une solide doctrine. C'est De nos jours, on a tendance à reléguer la doctrine. La doctrine, c'est un peu rébarbatif. C'est le mot poli pour dire barbant. Rébarbatif. C'est la même chose. C'est un peu quelque chose qui n'est pas... Et pourtant, c'est essentiel. Parce que ce que vous croyez va dicter comment vous vivez. Si vous croyez que Dieu est là pour pardonner le péché, qu'on peut faire n'importe quoi avec lui, vous allez vivre d'une certaine façon. Si vous savez qu'il déteste le péché, que le péché est tellement terrible qu'il a fallu la mort même du Fils de Dieu pour y apporter un remède, à ce moment-là, vous allez être plus respectueux de la volonté de Dieu, des 10 commandements, de comment vous allez vivre votre vie. On revient à nos moutons. Je punirai le monde pour sa méchanceté. Rien que là, on voit qu'il est passé de Babylone au monde entier. Et cette réalisation ultime est bien en vue, même pour le prophète Ésaïe. Et les méchants pour leur faute. Je ferai cesser l'orgueil des présomptueux. Et je rabaisserai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim. Je rendrai les humains plus rares que le métal d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par le courroux de l'Éternel des armées et par le jour de son ardente colère. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme le menu bétail qui n'a personne pour le rassembler, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Tous ceux qu'on trouvera seront percés et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs nourrissons seront jetés à terre sous leurs yeux. Leurs maisons seront mises à sac et leurs femmes violées. Chose terrible, description terrible que certains utilisent comme une excuse pour dire « Si c'est ça votre Dieu, merci, vous pouvez vous le garder. Si c'est un Dieu qui permet que des enfants soient sacrifiés, que des femmes soient violées, que tout soit mis à sac, que la terre soit ébranlée. » Encore une fois, il est très important de savoir que Dieu punit le péché. Le péché, ce n'est pas quelque chose d'anodin qu'il peut balayer sous le tapis. Et de deux choses l'une, soit nous sommes à Christ, sur qui la colère est déjà tombée, et comme le sang de l'agneau que les Juifs mangeaient avant de partir pour traverser la mer des joncs et se retrouver aller vers la terre promise, ce sang était un signe que la colère était déjà passée. De même, si vous réclamez de Christ, alors c'est comme s'il y a du sang sur votre tête. Il y a du sang sur le chambranle de la porte et l'ange de l'Éternel va passer par-dessus. Mais si vous n'avez pas ce sang, si au jour de la colère de Dieu vous n'êtes pas protégé par ce sang, alors l'ange de l'Éternel, le châtiment va tomber et... Encore une fois, on voit ça, on lit ça notamment dans l'Apocalypse, mais dans Matthieu 24, dans Thessaloniciens, tous ces événements, les descriptions se recoupent parfaitement, et on voit qu'il va y avoir une punition de Dieu qui va tomber sur la terre. Il va y avoir des cataclysmes cosmiques. Là, il est question des étoiles, des constellations qui ne font plus briller leur lumière. Certains pensent que peut-être il y aura des conflagrations nucléaires qui feront qu'il y aura des nuages qui feront cesser la lumière des astres, qui n'arrivera plus jusqu'à la Terre. Il y a des théories sur le refroidissement terrible qui en surviendrait s'il n'y a plus du tout de lumière, du soleil qui touche la Terre. Verset 13, il va ébranler les cieux, la Terre sera secouée sur sa base. Il y a certains qui pensent qu'en fait, Il y a déjà eu dans l'histoire de la Terre un renversement des pôles. Et il y a des choses troublantes, on l'a évoqué en faisant notre étude de la Bible en 24 heures, que des satellites de Mars, qui n'ont été découverts que très récemment par la science au 18e, 19e siècle, étaient déjà connus par les peuplades antiques. Voltaire dans Micromégas, avant même que c'est a écrit à propos de ces satellites de Mars et des explications qui tiennent la route, ce serait de penser qu'à un moment donné, en accord avec des récits bibliques où la Terre s'est arrêtée, peut-être qu'il y a eu un renversement des axes du pôle Nord est devenu le pôle Sud et ainsi de suite. On sait qu'on a retrouvé des végétations tropicales sous la glace. Alors, attention à la science-fiction, mais on s'aperçoit encore que les bonnes recherches scientifiques, c'est celles qui s'intéressent à ce qui est déjà dans la Bible. Et il y a des recherches en médecine et dans plein d'autres domaines qui s'inspirent, qui essaient de comprendre des phénomènes qui sont relatés dans la Bible. Et c'est ces recherches qui amènent les plus grandes découvertes. Si aujourd'hui nous avons des voitures qui fonctionnent avec de l'essence, du pétrole, c'est parce qu'un homme qui s'appelait Rockefeller s'est dit, il est question de bitume dans la Bible, il doit y avoir du pétrole dans le coin. C'est pas quelqu'un qui a dit Dieu n'existe pas, faisons des trous dans tous nos jardins pour voir si on a du pétrole. Non, c'est quelqu'un qui s'est basé, encore une fois, sur la vérité biblique, sur les récits historiques prouvés, avérés de la Bible. Encore une fois, c'était jeudi soir. J'ai eu le privilège de pouvoir participer à une petite action d'évangélisation avec l'équipe de James et Corinne et leurs internes au parc Carole de Roumanie. Et j'ai été vraiment béni de voir que l'évangélisation, c'est facile. L'évangélisation, il faut l'avoir à cœur. Des fois, on se dit, ah oui, l'évangélisation, il faut réunir toutes les églises, il faut faire venir Billy Graham, C'est vrai que ça peut être une façon, et ce n'est pas une critique de ce moyen. Mais l'évangélisation, ça commence par votre cœur. Et j'ai été émerveillé de voir qu'avec un simple parachute, un petit parachute de couleur, on peut rassembler une foule d'enfants, on peut leur donner un bon temps. Corinne et James et leur équipe les ont fait jouer et puis ils ont partagé un petit sketch. Viggo a joué le bouffon. Il faisait un super rôle de bouffon. Et il y avait personne dans ce parc, mais on avait une vingtaine d'enfants et 10 à 15 parents ou responsables de ces parents. La reine, c'était Rebecca, pardon. Et puis il y avait aussi Sandy, Myriam et qui d'autre était là ? Sabine. Très simplement, on commençait à parler de la mort et de savoir que c'était important de savoir où on allait. Et on a pu discuter. Ça a duré une trentaine de minutes. Les enfants ont eu beaucoup de joie. C'était une ambiance formidable. Il n'y avait pas besoin d'acheter des millions de dollars de sono pour louer un stade de France. Mais on a pu parler comme ça avec deux personnes. Sa maman était témoin de Jéhovah. Et elle croyait en Dieu, mais elle avait du mal avec la souffrance, avec les problèmes qu'on voit dans le monde. Une autre, son papa, elle avait été adoptée. Son papa était protestant suisse. Elle se disait catholique. C'est Sandy et Randy, et Marilyn et Assenta pour leurs enfants. Et on peut prier pour que ces personnes, ce premier contact, on les a invitées à passer à l'église, je ne les vois pas, peut-être qu'elles viendront jamais, mais on a, en 30 minutes, on a fait quelque chose de très simple qui a permis de partager la bonne nouvelle. Et c'est vrai que lorsqu'on voit des nourrissons qui sont jetés sous les yeux, des femmes qui sont violées, on se dit, c'est terrible. Mais le monde, c'est ce que j'ai expliqué à cette femme, c'est que le monde tel qu'il est, ce n'est pas le monde tel que Dieu l'a créé. C'est le monde tel que la rébellion de l'homme contre Dieu l'a rendu. Et maintenant, nous récoltons les fruits du péché, la mort. Mais Jésus va revenir et va remettre les pendules à l'heure. Il va punir ceux qui se livrent à la rébellion et qui n'ont jamais fléchi le genou devant son Fils. Verset 17. « Me voici, j'excite contre eux les Mèdes. » C'est les Perses et les Mèdes. Ce n'est pas les médias. Hein, mais les médias peuvent être utilisés aussi par Dieu. Les maîtres qui ne pensent qu'à l'argent et à l'or qui ne plaît pas. Leurs actes jetteront les jeunes gens à terre, ils seront sans compassion pour le fruit des entrailles. Leur œil sera impitoyable pour les fils. Et Babylone, l'ordement des royaumes, la fière parure des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorre que Dieu bouleversera. Elle ne sera jamais plus habitée. Elle ne sera plus peuplée. De génération en génération, l'Arabe n'y dressera pas sa tente et les bergers n'en feront plus un gîte pour les troupeaux, mais les habitants du désert y prendront leur gîte. Les hiboux rempliront ses maisons, les autruches la peupleront, les boucs y bondiront, les bêtes sauvages hurleront contre ses veuves et les chacals dans ses palais luxueux. Son temps est près d'arriver et ses jours ne se prolongeront pas. Promesse de destruction de Babylone. Là aussi, on voit que la comparaison avec Sodome et Gomorre montre qu'il y a une dimension morale de punition, de châtiment moral, sur un point de vue moral. Et dans l'Antiquité, lorsqu'une ville était maudite, vouée à l'interdit, vouée à la destruction, les caractéristiques, c'est qu'à côté des ruines, il restait des animaux qui venaient habiter la ville. Les ronces, les mauvaises herbes poussaient et la ville ne retrouvait plus jamais sa splendeur. On a vu dans le film mardi soir qu'en Israël, en Terre Sainte, on trouve souvent des monticules qu'on appelle des tels parce que les gens rebâtissaient leur ville sur la ville. Après des victoires, des passages de génération. Mais Babylone, aujourd'hui encore, il y a eu des tentatives de la repeupler. Saddam Hussein a essayé de reconstruire Babylone, mais c'est toujours une ville qui n'a jamais retrouvé sa splendeur d'antan. Et on peut penser que là aussi, il y a une dimension d'accomplissement à la fin des temps où le système économique et religieux du monde qui rejette Dieu sera pour toujours détruit.